Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa wa maliwe.
Bonjour. Galère, galère, livres et amis, émission du mercredi 20 octobre. Ce sont aujourd'hui Françoise et Dominique qui vont vous lire des extraits d'un livre de François Ruffin, « Les liens sinon rien », à Fakir Édition, qui vient de paraître en août 2021. L'association Fakir et ses supports informatifs sont connus depuis le film « Merci patron » de François Ruffin, qui est le directeur du journal Fakir, et qui est devenue députée LFI d'Amiens dans la Somme depuis les dernières élections législatives. Donc voilà leur présentation. Qui sommes-nous ? Eh bien, ils répondent : liés à aucun parti, aucun syndicat, aucune institution, fâchés avec tout le monde ou presque, l'association Fakir est basée à Amiens depuis 1999. On espère fournir, d'abord par notre journal, ensuite par nos vidéos, notre site internet, nos livres, nos débats, une information rigolote sur la forme, mais sérieuse sur le fond, combative, mais pas sectaire. Alors, voilà, leur site, c'est fakirpresse, en un seul mot, .info. fakirpresse.info pour avoir d'autres informations sur ce qu'ils font. Le dernier film de François Ruffin, « Debout les femmes », vient de sortir. Il est sorti la semaine dernière sur les écrans et il s'appuie sur les travaux d'une enquête réalisée par une mission d'information de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Mission demandée par François Ruffin et pour laquelle on a désigné comme co-enquêteur le député LRM Bruno Bonnel. Donc François Ruffin et Bruno Bonnel partent pour une enquête sur les métiers du lien, comme ils l'appellent. Et c'est cette enquête qui est, détaillée dans le film. Et l'introduction à cette enquête, et surtout au rapport d'enquête, c'est ce que nous allons lire maintenant. Donc, écoutons pour plus de précision ce qu'ils nous ont dit sur, d'abord, l'expression « les métiers du lien ». Les métiers du lien, c'est pour eux principalement quatre professions. Ce qu'on appelle AESH, c'est-à-dire les accompagnants d'enfants en situation de handicap. Ce qu'on appelle AVS, les auxiliaires de vie sociale. Et puis les animatrices du périscolaire dans les écoles et les assistantes maternelles. Qu'est-ce qui fait le lien entre ces professions ? Eh bien, le lien, justement. Nous n'avons pas choisi les terminologies du secteur comme service à domicile, puisque certaines professions ne s'exercent pas à domicile, mais aussi puisqu'elles ne disent rien de la qualité du travail fourni. Nous avons exclu le service à la personne, puisque le développement de cette notion est lié à des politiques de création d'emplois tous azimuts, sans aucune réflexion sur le sens des métiers. Prendre soin ou externaliser le travail domestique pour les ménages les plus chers, et ainsi donner des miettes à des travailleuses précaires. Nous aurions pu choisir de les appeler les métiers du soin, mais le soin est trop centré sur l'acte physique, sur la santé physique ou psychique. Les métiers du lien disent mieux le chemin et la finalité recherchés par ce rapport. Le chemin, c'est que le progrès, demain, viendra des liens plutôt que des biens, d'une société qui valorise la solidarité contre la concurrence. Les métiers du lien disent quelque chose de ce que doit être une république bienveillante. Les liens, ces professions n'ont pas été construites pour ça, mais ils sont centraux dans leur pratique. Les liens, c'est en deçà des gestes effectivement fournis, mais ça dit aussi ce qui est au-delà des gestes fournis. Et comme l'expliquait Xavier Guchet, philosophe auditionné par la mission, on ne sait pas par où ça passe. Par exemple, un enfant dans la cour de récré, il ne se fait pas des amis en cherchant des amis, mais en jouant au foot ou aux billes. Il a quelque chose à faire et ça rend possible autre chose. Dans les métiers du lien, c'est quelque chose de cet ordre. Le soin peut passer tout à fait par autre chose que des fonctionnalités techniques, sans qu'on sache vraiment par où ça passe. Avec notre définition, il nous semble évident qu'il y a bien plus que ces quatre métiers du lien, puisque bien sûr, enseignants, comédiens, cafetiers, députés, journalistes, ce sont aussi des métiers du lien. Mais nous avions identifié les quatre métiers dont nous avons parlé au départ comme étant à structurer en priorité, puisqu'ils n'ont en fait pour l'instant ni statut, ni revenu, ou presque. Il s'agit moins pour nous de nous bagarrer sur le choix des mots et leurs intitulés que sur la réalité à transformer. Voilà pour les mots. Et maintenant, le film et la plaquette que nous avons en main. Première explication, donc, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que cette mission d'information ? En décembre 2019, c'est François Ruffin qui parle, j'obtenais une mission d'information de la Commission des affaires économiques sur les métiers du lien. Et j'en étais nommée co-rapporteur avec le député En Marche, Bruno Bonnel. Durant 6 mois, nous avons auditionné des auxiliaires de vie sociale, des assistantes maternelles, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, des animatrices périscolaires, mais aussi leurs employeurs, leurs syndicats, des économistes, des sociologues. Et avec Gilles Perret, pour Debout les femmes, nous avons filmé cette mission, avec un vrai parti pris cinématographique, en faire un documentaire sensible, presque antipédagogique, sans aligner les experts. Le savoir est pourtant là, en filigrane. D'ailleurs, l'introduction de mon rapport tournait autour de 3 dialogues avec des intellectuels, Cynthia Fleury, Dominique Bourg, Pierre Rimbert, qui donnent une ampleur au métier, qui les replacent dans une époque, dans une société, dans un projet, qui, disons-le, porte un souffle, une espérance. Et donc, nous publions ici les témoignages des travailleurs et des experts. Alors, nous en venons maintenant à l'introduction en elle-même, faite par François Ruffin pour le rapport et pour le film. Que dit-il ? Il nous faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Ça, c'est une citation. C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui énonçait cela durant la crise du Covid. Et il ajoutait, citant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Ces mots, les Français les ont écrits il y a plus de 200 ans. Nous devons aujourd'hui reprendre le flambeau et donner toute sa force à ce principe.
J'ai même récolté une amende à Abbeville durant la crise du Covid. Martine nous raconte ses mésaventures en enfilant les bas de Madame Galland, ex-dame pipi à la mairie. Entre 2 personnes âgées, je me suis dit « Tiens, ce soir, je mettrai bien un peu de gruyère sur mes pâtes. » Je me suis rendue au supermarché pour acheter un sachet et en sortant, les policiers m'ont contrôlée. J'ai donné mon attestation de déplacement professionnel. « Mais ça, c'est pour vous ?» ils m'ont demandé en montrant le fromage. « Bah oui. » « Et vous avez un papier pour les produits de première nécessité ?»« Bah non. » J'aurais dû mentir, dire que c'était pour une vieille dame. Le gruyère m'a coûté 135 €. Déjà qu'on ne gagne pas lourd. Ça, c'était ma journée d'hier. Martine nous tend son PDA, son assistant électronique. Quand je rentre chez une personne âgée, je pointe avec ça. Il y a un boîtier contre le mur. Quand je sors, je pointe. Et c'est là-dessus que l'association m'envoie des messages. « Bonjour, les plannings clients sont dans vos casiers. »« Donc, tu as débuté à 8h30 ?»« Oui, chez Monsieur T. »« Pour 30 minutes ?»« C'est ça. » Il faut faire vite, ouvrir les volets, le soulever, la toilette, le bol au micro-ondes. J'avais 1 quart d'heure chez Madame B, mais 1 quart d'heure, ça vaut pas le coup. J'avais à peine le temps d'enfiler ses bas. Maintenant, c'est 1/2 heure minimum. Quand j'étais en Touraine, c'était plus tranquille. On avait 1 heure, jamais moins. Parfois 2 heures, on pouvait bavarder. Et les horaires montaient vite. Je faisais 1 200 €, 1 300 €. Je dépassais toujours le SMIC. Ensuite, tu as 1 quart d'heure de battement ? Oui, c'est le temps de déplacement. Il est payé ? Comme hier, j'étais en mode prestataire ? Oui. Donc, si je compte bien, tu enchaînes 4 visites le matin avec une grosse pause de midi. Ça me permet de rentrer chez moi. 4 visites en fin d'après-midi, et là, tu as un trou de 2 heures. Je suis restée dans ma voiture. J'en ai profité pour passer des appels, faire le lien avec les collègues pour aujourd'hui. Monsieur T a une escarre aux fesses. Madame L t'attend vers midi. J'ai rassuré Madame L derrière. Elle est toujours inquiète quand il y a un changement d'AVS. Elle a peur qu'on l'oublie. C'est pas compté comme du temps de travail ? Non, jamais. Et tu termines à 20h30 ? 21h. À 21h, j'arrête. Donc, une amplitude de 12 heures, un peu plus. C'est ça. Il faudrait une prise en compte de l'amplitude horaire. Si je pars pendant 8 heures, je suis payée 8 heures. Tu fais ça combien de jours par semaine ? 6 jours. Et 2 dimanches sur 3. Un week-end en prestataire, un week-end en mandataire et le 3e en repos. Faut dire que je prends tous les remplacements. Il y a 14 AVS en arrêt maladie sur mon secteur. Tu pourrais me montrer ta fiche de paie maintenant ? Martine sort un dossier de son sac. Ça, c'est ma feuille d'octobre. Je vois 110 heures et en face, en net, 759 euros. Je touche à peu près 800 euros par mois. Mais après ma saisie sur salaire, ça me fait 759 euros parce que je n'ai pas payé mes impôts locaux. J'ai complété avec du RSA activité et ma fille touche 300 euros de pension. Tu as quoi comme avantage à côté ? Comme avantage ? Je ne sais pas, les tickets resto, on n'en a pas. Les frais de déplacement, c'est 35 centimes du kilomètre. Ma voiture est tombée en panne, je n'avais pas les moyens de la réparer. Durant 1 an et demi, j'ai fait du vélo tous les jours, par tous les temps, à 60 ans. L'association n'avait pas de véhicule professionnel ou de vélo électrique à me prêter, ce qui serait bien. C'est 1000 euros. Si j'avais 1000 euros, je serais contente.
Eh oui, Martine ne constitue pas l'exception, mais la règle, dans les professions que nous avons retenues. Auxiliaire de vie sociale, animatrice du périscolaire, accompagnant d'enfants en situation de handicap, assistante maternelle, leur travail occupe leur journée, souvent du matin au soir, parfois le samedi, voire le dimanche, c'est un temps plein. Et pourtant, au bout du mois, elles ne récoltent qu'un piètre salaire sous le SMIC et le seuil de pauvreté. Au-delà même des revenus, elles sont dépourvues de statut, maintenues dans la précarité, dans l'incertitude du lendemain, inexistantes, un lumpen prolétariat des services. Quel paradoxe ! Car tous les discours, toutes les proclamations de bonnes intentions en dégoulinent. Ces femmes s'occupent des êtres qui nous sont les plus chers, les plus précieux. Nos bébés, nos enfants, nos personnes âgées, nos personnes handicapées. Du berceau à la tombe, elles prennent en charge les plus fragiles. Elles sont le fondement de notre société. Quel fossé entre les paroles et les actes. Valorisé dans les mots, dévalorisé dans les faits. Pourquoi alors cette maltraitance des aidants ? Pourquoi les politiques publiques entérinent, voire encouragent, financent cette indécence salariale plutôt que de la combattre ? Pourquoi les rapports parlementaires jusqu'ici évitent cette question ? Comment vivre et vivre bien des métiers du lien ? Pourquoi ne les aborde-t-il que par le défi du vieillissement, comme dans le plan de mobilisation nationale en faveur des métiers du grand âge établi par Myriam El Khoury, bon, et abandonné depuis ? Ou, pour le handicap, pourquoi il ne l'aborde que par le vécu des élèves ? Cette situation est à l'évidence difficile pour les auxiliaires de vie scolaire, mais elle oblitère surtout la qualité, la fluidité et la continuité de l'accompagnement proposé aux jeunes en situation de handicap, disait le rapport de Pénélope Comites en 2013 dans « Professionnaliser les accompagnants pour la réussite des enfants et des adolescents handicapés ». Question importante, oui, mais pourquoi les aborder sans se centrer jamais sur les travailleuses, leurs horaires, leur formation, leur rétribution ? Ou alors par le chômage, comment créer de l'emploi, mais sans se demander quels emplois ou quel bout d'emploi ? Pourquoi faire ? Ou à la rigueur par l'attractivité ? Ajuster l'offre à la demande par la revalorisation des conditions de travail et des salaires, envisageant si besoin de recourir à l'immigration. Pourquoi ne pas viser pour ces femmes un travail décent ? Parce que ce sont des femmes, justement, à près de 90%. Parce que ce sont des femmes pauvres. Avec 26 heures de travail hebdomadaire en moyenne, 830 euros de salaire net, 1190 euros pour les rares temps pleins. Et des femmes peu éduquées, souvent. 80% avec un niveau d'éducation inférieur au BEP, c'est-à-dire le cycle court du secondaire. et bien sûr, éventuellement, des femmes étrangères, 15% dans les services à la personne. Les dominations s'ajoutent de genre, de classe, d'origine. Ou, dit autrement, elles cumulent les fragilités. Geneviève Fraisse, philosophe et chercheuse au CNRS, le dit. Dans le service à la personne, ce sont deux vulnérabilités qui se font face. Et il faut dire le non-dit. Ces tâches relevaient du travail domestique. C'est aussi ce qu'a noté la chercheuse Sandra Laugier, qui a notamment travaillé sur l'éthique féministe du soin. Et donc, ces soins étaient effectués gratuitement, bénévolement, par des femmes. Non seulement les femmes n'étaient pas payées, mais elles payaient le prix, justement, de leur service. Comme en témoigne cet échange avec une autre philosophe, Cynthia Fleury. C'est François Ruffin qui fait l'interview. Vous avez écrit « Le soin est un humanisme ». Et je m'interroge sur une contradiction confuse. Avec ces métiers du lien, je vise au fond à salarier, à professionnaliser, voire à fonctionnariser le soin. Des soins qui étaient jusqu'alors délivrés à l'intérieur des familles, bénévolement, pas comme un service marchand. Est-ce que le soin payé, ça demeure un humanisme ?
Pour ma part, je n'aperçois pas de contradiction. J'irai beaucoup plus loin. Ce soin, lorsqu'il est porté exclusivement par les familles, les détruit souvent. Si le soin demeure un choix, nous pouvons nous appuyer sur les familles. Mais l'enjeu est de professionnaliser ce soin, de le déféminiser notamment. Mon point de vue, ici, n'est pas moral, il est clinique. Un soin intégralement porté par la famille produit de l'érosion de soi, la dépression des aidants. Bien sûr, selon les situations familiales et les tempéraments, la capacité des aidants varie, mais l'épuisement moral, physique et psychique arrive tôt ou tard. La politisation du soin, la professionnalisation du soin sont obligatoires pour préserver la santé de tous. François Ruffin.
Et vous diriez ça pour tous les soins ? Dans nos métiers du lien, on a retenu les auxiliaires de vie sociale pour les personnes âgées, les accompagnants pour enfants en situation de handicap, mais aussi les assistantes maternelles pour les bébés. Vous portez le même diagnostic pour toutes ces professions ?
Cynthia Fleury. Pour tous, c'est une vérité désagréable à entendre pour la rémanence patriarcale qui sommeille dans la société, mais c'est un fait. Une mère seule, un parent seul s'épuise. Le soin à plein temps, dans ce monde où il est totalement dévalorisé et naturalisé, alors même qu'il est fondamental, mais souvent en danger social, celui qui le prodigue, sans parler de son érosion physique et mentale. Donc, revaloriser le soin est un enjeu politique majeur. Dans votre rapport, il faut le dire, la politisation du soin est nécessaire, pour des raisons cliniques. Ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer le soin familial, filial, parental. Ils sont absolument nécessaires. Chacun a sa part. Le soin est une affaire de continuum. Pour le dire de façon caricaturale, la création de l'État social, c'est la politisation de la solidarité. Avant, la solidarité n'existait pas. Ce qui existait, c'était la charité, la compassion, les familles, la philanthropie, etc. Face à la naissance de l'État social, les conservateurs ont dit: mais vous êtes en train de déresponsabiliser l'individu, de le démoraliser, vous lui enlevez l'obligation de la piété filiale. Cette affaire-là, c'est les familles. Donc, il y a eu deux camps. D'un côté, la naturalisation, de l'autre côté, la politisation. Je défends pour ma part cliniquement une solidarité politisée. Qu'est-ce que cela signifie ? Que le soin, c'est du travail, que le soin, c'est de la compétence, que le soin, ce n'est pas exclusivement du don. Notre société s'est construite autour de cette naturalisation et cette féminisation du soin, de cette culpabilisation aussi. Le soin, c'est le sacrifice, la vocation, mais on passe à côté de sa dimension efficace, rationnelle, à savoir notamment sa difficulté, sa nécessaire compétence, etc. Je vois des familles se détruire autour du suivi autistique d'un enfant ou d'un parent Alzheimer. Bien sûr, elles sont dans l'obligation morale de le faire, car il n'y a souvent qu'une offre inadaptée face à l'immense demande. Donc, elle se substitue. Mais c'est assez terrible de voir comment le suivi d'une maladie chronique douloureuse, incurable, ou d'une déficience cognitive, d'une dépendance totale, irradie l'ensemble des aidants. Tout peut exploser, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie amoureuse. Or, c'est un enjeu pour demain. Nous vivons plus longtemps et la médecine a créé des nouvelles maladies en prolongeant notre vie, indépendamment de nos pathologies. Il y a l'excellente nouvelle de l'allongement de la vie et notamment de la qualité de vie. Mais il y a aussi la démultiplication du polypathologique. Or, pour éviter de pourrir la vie des enfants et des familles, il faut affirmer la politisation, la collectivisation de cette question. Sans celle-ci, la société ne pourra pas relever correctement et de façon humaniste la transition épidémiologique. La maltraitance des métiers du lien prolonge au fond la maltraitance économique, symbolique, psychologique de tous ceux qui sont invisibilisés par la société. Longtemps les femmes et aujourd'hui les minorités.
Cette maltraitance tient également à une honte sociale. Ces métiers du lien sont aujourd'hui jetés dans le gros paquet des services à la personne. Volontairement, les activités relevant de l'action sociale et les services domestiques ont été réunis, regrette l'économiste Florence Janicatrice. On a instauré une confusion. Les aides aux personnes âgées, handicapées, malades, sont désormais confondues avec les prestations destinées aux classes aisées, le jardinage ou le bricolage, la promenade des animaux de compagnie, l'assistance informatique ou administrative, la cuisine à domicile, l'enseignement à domicile et surtout, massivement, le ménage. D'autant que cette nouvelle domesticité comporte pour les dominants une autre honte. On sépare, abusivement, les vulnérables d'un côté, les autonomes de l'autre, relève Cynthia Fleury. La vérité, c'est que les autonomes parviennent à cacher leur vulnérabilité et même leur dépendance. Mettre en lumière cet astistana, c'est ébrécher un mythe social. L'invisibilité imposée à ceux qui assument les tâches ménagères, compare Mona Chollet, l'essayiste, n'est plus aussi spectaculaire que dans ce manoir du Suffolk où les serviteurs devaient tourner leur visage contre le mur quand ils croisaient un membre de la maisonnée. Pourtant, elle demeure. Une campagne de communication de l'Agence nationale des services à la personne montrait des aspirateurs et des pulvérisateurs de nettoyants pour vitres qui semblaient animés par l'opération du Saint-Esprit. Donc la plupart du temps, les femmes de ménage sont des fantômes. Elles viennent chez leur employeur en son absence et communiquent avec lui par petits mots. Le rêve, c'est d'arriver comme ça et de trouver tout fait et d'être tranquille chez soi quand j'arrive, annonce une quadragénaire. L'employeur, comme le mari, peuvent ainsi se faire servir tout en s'épargnant l'embarras, même vague, d'y être confronté. Mais ce refus de voir le travail domestique permet aussi de maintenir l'illusion d'un intérieur propre et bien tenu comme par magie. Et la journaliste de nous amener chez le plus célèbre des magiciens, Harry Potter. Dans les familles riches ou à poularde, s'activent des elfes de maison qui ne touchent aucun salaire. Comme leurs homologues humains, ils sont condamnés à la clandestinité. À l'école des sorciers, ils nettoient les salles communes la nuit quand les élèves dorment et les dortoirs le jour. Mais leur invisibilité atteint son paroxysme au réfectoire. À l'heure des repas, des montagnes de victuailles apparaissent sur les tables comme surgies du néant. Il faut plus de deux ans de scolarité à Hermione pour réaliser que les plats sont envoyés depuis les cuisines par des elfes. À la suite de cette révélation, elle refuse un temps de s'alimenter, révoltée à l'idée que son bien-être repose sur un esclavage. Cette sensibilité sociale prononcée suscite l'incompréhension et la réprobation de son entourage. « Ne va pas leur mettre des idées en tête en leur disant qu'il leur faut des vêtements et des salaires », la prévient l'un des jumeaux Weasley. Mais Hermione persiste et fonde la Société de libération des elfes de maison. Comment dès lors valoriser les services à la personne, que l'on cache, que l'on maintient dans l'ombre. C'est la part obscure de notre société, comme les esclaves de la cité athénienne, avec autour le consensus de l'oubli. Cette maltraitance, enfin, des métiers du lien, tient à la maltraitance des liens eux-mêmes, à leur négligence dans nos sociétés. Car dans quelle société vivons-nous ? Une société de consommation, ainsi définie par le petit Robert. Type de société où le système économique pousse à consommer et suscite des besoins dans les secteurs qui lui sont profitables. ou encore, dans le Petit Larousse, société d'un pays industriel avancé où l'économie, pour fonctionner, s'efforce de créer sans cesse de nouveaux besoins et où les jouissances de la consommation sont érigées en impératif au détriment de toute exigence humaine d'un autre ordre. Apporter de la dignité à une personne âgée, contribuer à l'autonomie d'une personne handicapée, participer à l'élaboration imaginative d'un enfant, à sa capacité de création, bref, par le soin, donner aux plus vulnérables quelque chose à espérer de ce monde, et cela, quel que soit le niveau des revenus, quelles que soient les fortunes, ces besoins bien réels, même essentiels, pas du tout artificiels, sont-ils profitables au système économique ? Ils relèvent à coup sûr d'une exigence humaine d'un autre ordre. D'où le mépris, jusqu'à la tacite, mais collectif, qu'ils subissent. Ces liens ne sont pas comptés comme une richesse, juste comme un supplément d'âme lorsqu'ils sont gratuits, délivrés par la famille, ou comme une dépense, comme un coût, lorsqu'ils sont payés. On le sait, ce qui n'est pas compté économiquement ne compte pas. Ce qui compte, en revanche, ce sont les biens. Le PIB, jusqu'aux années 1970, n'a comptabilisé que les biens agricoles et industriels. Les Trente Glorieuses se racontent d'abord par le supermarché, le chariot rempli, le réfrigérateur de tous, plus que par la sécurité sociale, les retraites, l'éducation secondaire pour tous, qui furent pourtant la toile de fond de décennies où le confort s'est accru. Et aujourd'hui encore, en un prolongement de cette période, comment nous est fondu le progrès ? Sous la forme d'un iPhone, avec la 5G, des réfrigérateurs connectés, etc., etc. Comme l'écrit le philosophe Dominique Bourg, on comprendra aisément que l'adduction d'eau, l'électricité, le chauffage central, l'accroissement des surfaces d'habitation, le nombre des machines à laver, le linge et la vaisselle, la chaîne du froid, une forme de mobilité, est débouché sur une augmentation réelle et tangible de notre bien-être. Mais ces améliorations fondamentales et qualitatives ne peuvent avoir lieu qu'une fois. La simple accumulation indifférenciée de biens matériels ne saurait suffire à elle seule à augmenter notre sentiment de bien-être. On revient donc à notre mission. Il nous faut afficher notre ambition à travers les métiers du lien. C'est un projet de société que nous portons. Nous ne venons pas seulement techniquement construire un statut pour les auxiliaires de vie sociale. Il le faut, certes. Garantir un revenu pour les accompagnantes. Pour les AVS, il le faut, bien sûr. Reconnaître les animateurs du périscolaire, les assistantes maternelles. Il faut tout cela. Il faut les sortir de la marge de la périphérie de l'oubli. Mais il faut plus. Il faut construire une société qui va avec. Une société qui place le lien en son cœur, qui en fait son moteur. Par où passera le progrès demain ? Par le lien, par les métiers du lien. C'est un basculement que nous réclamons et qui ne correspond pas qu'à une conviction éthique. Il répond à un moment historique, à une nécessité écologique. Que nous dit-il ? Que les premières phases du développement, la richesse, apporte en effet un supplément de bien-être avec une alimentation calorique, des meilleurs soins, de l'éducation. L'espérance de vie s'élève rapidement. C'est vrai dans les pays pauvres. Mais ensuite, plus le niveau de vie augmente, plus le lien entre revenu et espérance de vie s'atténue. Que remarque-t-on ? Dans les pays riches, rien. Il n'y a plus de lien entre le niveau de richesse et l'espérance de vie. Finalement, à ce niveau-là, les pays se trouvent distribués de façon aléatoire. Les États-Unis, le pays le plus riche de la planète, ont une espérance de vie inférieure à celle de l'Espagne ou de la Nouvelle-Zélande. Bon. D'ailleurs, depuis 40 ans, depuis le milieu des années 70, le revenu par habitant en France a quasiment doublé. Mais qu'en est-il du taux de bonheur ? Cela n'a rien à voir. Les deux courbes sont disjointes. Comme l'annonce l'épidémiologiste anglais Richard Wilkinson, c'est la fin d'une époque. Jusqu'ici, pour améliorer notre condition, il y avait une réponse qui marchait, produire plus de richesses. Nous avons passé un certain seuil et le lien est désormais rompu. C'est un schéma prévisible. Notre estomac crie famine, on mange. Mais une fois notre estomac rassasié, disposer de plusieurs autres pains ne nous aide pas particulièrement. Alors, vers quoi nous tourner ? C'est ce que nous verrons quand nous aurons écouter la musique de Debout les femmes.
Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Asservies, humiliées, les femmes, achetées, vendues, violées. Dans toutes les maisons, les femmes, hors du monde reléguées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorée, ils nous ont divisés, les femmes, et de nos sœurs séparées. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Le temps de la colère des femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. Debout.
Oui, brisons nos entraves. Nous sommes la première génération à devoir répondre de façon novatrice autant que possible à cette question. Et comment surtout apporter de nouvelles améliorations à la qualité réelle de la vie humaine? Vers quoi nous tourner, donc, demandions-nous, si ce n'est plus vers la croissance économique? Vers quoi nous tourner? Parce qu'une étape est franchie dans notre développement. Et quel est le sens de l'évolution maintenant? Quel est le sens de l'histoire? Quel est le sens de nos jours? Nous assistons à l'effritement d'une croyance, à une crise d'espérance, et écoutons ce qu'en dit Dominique Bourg.
On sort de la société de consommation. Ce n'est pas rien. La consommation avait, j'en parle au passé, une fonction spirituelle. Elle donnait un sens à notre existence et à l'histoire, à la société. À travers la consommation, on se réalisait. Cette magie jouait à plein durant les années 60, mais elle s'est assez vite effritée. Dès les années 1970, apparaît une contestation de ce culte. Et aujourd'hui, dans nos pays, ça ne marche plus. Lors des focus groups, lorsqu'on invite des gens lambda pour discuter d'un nouveau produit, toute fascination a disparu. J'ai rencontré des professionnels de ces analyses marketing qui m'en ont témoigné. La magie, c'est fini, complètement fini. Mais même l'Inde ou la Chine, à la limite, ils n'auront jamais connu cette magie de la consommation parce que d'emblée, elle est associée à la destruction très visible de l'environnement. Ils savent, c'est sans innocence, habité par une culpabilité.
Et comme la magie est morte, le système jette toutes ses forces pour que l'idéologie survive, avec des écrans publicitaires partout, des chaînes de télé gorgées de pubs.
On met un fric monstre pour continuer à vendre n'importe quoi. Sinon, si toutes les conneries ne se vendent plus, le système est foutu.
Alors, à nouveau, vers quoi nous tourner? Eh bien, avec ce rapport, nous répondons vers les liens plutôt que vers les biens. Dans notre moment historique, voilà l'étape d'après, la direction pour apporter de nouvelles améliorations à la qualité réelle de la vie humaine. Ce nouveau cap, par ailleurs, c'est l'urgence écologique qui l'exige. Et revenons à Dominique Bourg, qui dit souvent que le progrès demain ne sera plus dans la technologie, mais dans la qualité des relations.
Non, pas demain, mais dès aujourd'hui, en fait. Dans les pays riches, comme le nôtre, on le voit déjà dans les enquêtes. Le bien-être provient désormais non plus du PIB, mais du relationnel, du temps passé en famille, d'une disponibilité pour ses amis, etc. C'est ça qui rend les gens heureux, épanouis, et non pas le fait d'avoir 3 bagnoles.
Ouais, si on en vient à notre sujet, ça veut dire, dans cette logique, qu'il faudrait valoriser les métiers qui créent du lien, plutôt que ceux tournés vers la marchandise.
Évidemment, on est cul par-dessus tête. Ce n'est pas très sympa, mais le vendeur de SUV, le publicitaire qui vend ses véhicules, l'ingénieur qui dessine les plans, ces emplois sont valorisés, bien payés, bien considérés, alors que non seulement ils n'apportent qu'un plaisir éphémère, si ce n'est de la frustration, mais surtout ils contribuent à la dégradation de l'habitabilité de la terre, et donc rémunérer ce qui détruit. À l'inverse de nos métiers, qui participent d'une chose essentielle, la reconnaissance de l'autre. Revenez au vieil Hegel, on est au début du XIXe siècle, il dit. Qu'est-ce qui fait qu'une société sera accomplie? C'est quand il n'y aura plus aucun individu qui ne sera pas reconnu dans son humanité. C'est le fondement de la vie sociale, la reconnaissance par la société de la valeur de tout un chacun. C'est le drame terrible du chômage. Il rend les hommes inutiles. Et ça, c'est destructeur moralement, mentalement.
Oui, là, c'est la reconnaissance à la fois des gens qui sont aidés et des gens qui aident.
Les deux. Tu reconnais les deux d'un coup. D'un côté, la personne qui aide, si son boulot lui plaît, si elle s'y reconnaît, obtient justement une reconnaissance de la personne qu'elle aide et de la société. De l'autre, elle-même et la société reconnaissent la personne aidée dans son humanité. Cette dernière sort de l'isolement, de la trappe mentale où sont abandonnés les gens qui ne peuvent se débrouiller seuls. Tu renforces de manière générale les liens et c'est un signal que tu donnes à la société en disant « La société ne se borne pas au marché, c'est d'abord l'entraide. » Ce qui va être de plus en plus important aujourd'hui, c'est les liens.
C'est le volet social. Mais c'est vert aussi. Enfin, vert, V-E-R-T, hein.
C'est la clé de tout en matière d'écologie. Si la planète devient de moins en moins habitable pour notre espèce et pour les autres espèces, la première cause, ce sont les flux d'énergie et les flux de matière, tous les objets qui permettent de produire. D'autant que nous sommes sur une industrie du petit gadget obsolescent, sans grand intérêt, avec une terre transformée en atelier géant. Avec un effacement de la géographie, des mers, des distances. Avec pour seule boussole le coût, la concurrence, le meilleur prix, et qui fait que chaque stylo ici, chaque vêtement sur nous, ont parcouru des milliers de kilomètres. Donc, effectivement, une société qui s'écologiserait, c'est forcément une société qui va privilégier les liens plutôt que les biens, une société où les activités de production et leur volume et, leur transport baissent drastiquement, même dans notre premier temps.
Bon, les deux se tiennent, la valorisation ou la dévalorisation des métiers du lien et la valeur ou la non-valeur accordée au lien. Méprisés tous deux, négligés, marginalisés ou au contraire, placés au cœur de la cité. Pour revaloriser les métiers du soin, disait aussi Sandra Laugier, il faut inverser les normes de valeur dans notre société. On donne de la valeur à ce qui n'en a pas et pas assez à ce qui en a. Nous avons une dépendance collective aux activités de soins, et pourtant, c'est un point aveugle. On ne s'en aperçoit que lorsque le travail n'est plus fait. Nous devons finalement glisser de la valeur financière vers la valeur sociale. Mieux rémunérer ces emplois est une priorité. C'est la voie pour changer en profondeur le regard sur ces métiers du soin. C'est le minimum qu'ils permettent de vivre décemment. Le soin doit donner de la dignité à la personne aidée, mais aussi à la personne aidante. Par exemple, durant la crise du Covid, le président de la République relevait que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Et donc, comme on l'a vu au début, il citait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, « Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Eh bien, évaluer cette valeur sociale, plus que cette valeur financière, cette utilité commune, pour reprendre les propos du président de la République et des droits de l'homme et du citoyen de 1789, les études s'y efforcent. Ainsi, il y a eu des rapports aux États-Unis pour la New Economics Foundation. Il y a eu des rapports en Grande-Bretagne. Et d'après leurs calculs, l'employé de crèche, par l'éducation prodiguée aux enfants, par le temps libéré pour les parents, rend à la société 9 fois ce qu'elle perçoit en salaire. Et à l'autre bout de la chaîne, le conseiller fiscal, lui, son art, qui consiste à priver la collectivité du profit de l'impôt, il détruit 47 fois de plus-value qu'il n'en crée. Donc, le retour social sur investissement, ça diverge grandement du retour sur investissement tout court pour l'actionnaire. Avec, bien sûr, des externalités, tantôt positives, tantôt négatives. L'ouvrier du recyclage opposé au publicitaire. Et l'inverse, enfin la même chose, la même opposition, pour un agent de nettoyage à l'hôpital, avec un informaticien qui crée des petits programmes pour faire fonctionner nos téléphones. Donc, les professions les plus nuisibles sont surpayées, tandis que, symétriquement, l'échelle des salaires qui décourage les activités profitables au plus grand nombre ne permet pas de recruter suffisamment de personnes dans ce domaine. C'est donc un continent invisible qu'il s'agit de rendre visible. Il est déjà là, sous nos yeux, statistiquement, économiquement, massivement, mais plutôt que de l'organiser, de le structurer et de le financer, on refuse de le voir comme une honte qu'on cache. Donc, donnons la parole maintenant à Pierre Rimbert, rédacteur au Monde diplomatique, qui observe l'évolution des actifs en France. Que dit-il ?
Il y a quelque chose de très frappant, d'ordinaire. On associe les classes populaires aux figures masculines, ouvriers métallos, sidérurgistes, etc. Or, d'après les statistiques de l'INSEE, le salariat des classes populaires aujourd'hui est majoritairement constitué de femmes. 51% des employés et des ouvriers sont des femmes. La proportion était de 35% en 1968. C'est vraiment un des traits les plus frappants, à mon avis, dans ce dernier demi-siècle de la transformation sociologique de la société. Le nombre d'emplois masculins n'a pas changé, quasiment pas. De 13,3 millions d'emplois masculins en 1968, on est passé à 13,7 millions en 2017. La force de travail supplémentaire, enrôlée par le système économique ces dernières décennies, est féminine, et notamment dans les professions que vous mentionnez. En janvier, là, pour la première fois de manière durable, les femmes ont dépassé les hommes dans la force de travail américaine. C'est une première dans l'histoire du capitalisme.
Donc, c'est une tendance de fond, mais souterraine, très peu visible.
C'est la question centrale, sans doute, cette invisibilité. Pourquoi ? Quelles en sont les causes ? D'abord, ces secteurs sont éclatés par le lieu d'exercice, tantôt chez les particuliers, tantôt dans des institutions. Premier facteur de séparation. Et deuxième facteur, celui des diplômes entre, par exemple, une femme de ménage et une aide-soignante dans un hôpital. L'unité ne va pas de soi, même si d'autres facteurs les rassemblent. Ce sont des professions relativement mal payées, qui travaillent dans des conditions pas toujours flatteuses et qui réalisent des tâches invisibles. Voilà qui est important. Le propre de ces métiers, c'est qu'on ne les voit que quand ils ne sont pas faits ou mal faits. C'est finalement la charpente de l'état social que les femmes tiennent à bout de bras. Au-delà des métiers du lien ou du soin, j'ajouterai le ménage et même l'administration, les tâches de bureau. Tout un salariat qui contribue à la reproduction de la société, c'est-à-dire... Pour que la production puisse s'effectuer, il faut des gens en bonne santé, éduqués, avec un environnement sain, etc. Ces missions sont essentielles et pourtant elles sont comme à l'arrière-plan. Enfin, il y a une bataille de l'imaginaire. Qu'est-ce que la modernité ?
C'est-à-dire ?
Aujourd'hui, quand on dit modernité, on pense aux nouvelles technologies, un secteur qui emploie 85% des hommes ou 85% d'hommes ou à la finance 88% d'hommes. Or, l'éducation, le soin, prendre soin des vieux, des jeunes, c'est quand on regarde l'histoire longue, une forme de modernité qui est tout à fait unique dans l'histoire des civilisations. Et pourtant, la modernité dans nos imaginaires, c'est Facebook et pas l'état social qui s'est instauré depuis 80 ans. On ne pense pas aux auxiliaires de vie sociale, aux assistantes maternelles, aux aides-soignantes, etc. Quand vous regardez la liste aux États-Unis des 10 métiers pour l'avenir, vous avez une partie d'hommes qui installent des panneaux solaires, des programmeurs informatiques, et puis viennent des massothérapeutes, des femmes qui s'occupent des enfants, des femmes qui s'occupent des vieux, etc. Et d'ailleurs, qu'on observe cela, les personnes impliquées, on va dire, dans cette automatisation du monde, comment ils élèvent leurs enfants? Il y a une grande discordance. Dans la baie de San Francisco, les gens payent des humains à leurs enfants, à tel point qu'un métier apparaît aux États-Unis, assistant personnel du coach pour enfants. Pas seulement le coach, mais l'assistant du coach. Le coach permet à l'enfant entre 0 et 3 ans de rentrer dans une maternelle à 20 000 dollars par an. Donc, ces mêmes personnes qui, par leurs entreprises, par la technologie, vont priver les autres de rapports humains, pour elles-mêmes, pour leur famille, elles surinvestissent dans l'humain. Elles en reconnaissent le caractère absolument nécessaire. Il y a un caractère très inégalitaire dans l'automatisation. La modernité est tellement incarnée par la technologie, si peu par l'humain, qu'on n'aperçoit pas le mouvement en cours. Ça fait 20 ans qu'on répète « l'état social est en train de disparaître », etc. Et certes, des politiques lui sont contraires. Et pourtant, les budgets sociaux augmentent. Ces métiers que vous citez sont en train d'exploser. Le paradoxe, c'est que l'état social se renforce, mais par le bas et dans le privé. Par des associations, des sous-traitants, des auto-entreprises, avec de bas salaires et des temps partiels. C'est vrai jusque dans l'hôpital. L'aide-soignante a remplacé l'infirmière, qui au quotidien a quasiment remplacé le médecin. Qui remplace l'aide-soignante? L'ASH, l'agence spécialisée, et la femme de ménage, elle, est sous-traitée au privé. Donc à la fois l'état social croît, et en même temps, ces métiers font l'objet de restrictions de coûts, d'externalisation. Donc, il faut changer cet imaginaire de la modernité. C'est le professeur, pas la téléconférence. Et dans un registre proche, il faut changer de langage. Ces métiers féminins ne sont pas exprimés dans l'ordre de la production, mais du service. Même ici, dans cette assemblée, on entend systématiquement parler de dépenses de santé, jamais de production de soins. C'est significatif. Le monde politique, les médias, présentent la santé et l'éducation comme si c'était des bienfaits, dispensés par des femmes dévouées, alors que ce sont des richesses produites par des travailleuses. C'est important, pas seulement pour l'estime de soi, la dignité des gens qui font ce métier, mais pour le regard de la société. Au sortir de la guerre, gaullistes et communistes, pour accélérer la production, avaient fabriqué une mythologie du mineur de charbon. Eh bien, aujourd'hui, la puissance publique devrait accompagner la montée de ces métiers avec le même effort culturel.
Eh oui, vous voulez dire, donc, aujourd'hui, les métiers du lien croissent, mais presque malgré la société, en catimini, comme une honte, alors que ça devrait être une fierté.
Tout à fait. Quand on parle de transition écologique, les héros de cette transition sont des héroïnes. Ce sont des femmes qui rendent la société vivable. Elles sont les nouveaux mineurs de fonds qui produisent des services vitaux de la société.
Donc, structurer ces métiers du lien, les sortir de la précarité, comporte donc au moins un triple enjeu, féministe, social, écologique. Féministe parce que la vaste majorité, sinon la quasi-totalité de ces emplois, sont occupés par des femmes. Social, parce que ce sont des centaines de milliers d'employés, de salariés, qu'on doit sortir de la pauvreté. Écologique, parce que valoriser ce métier du lien, c'est dessiner la priorité pour demain. La priorité, c'est l'humain. Ce rapport, que vous allez donc retrouver dans le film « Debout les femmes », ce rapport vise à établir un état des lieux de ces professions, à présenter des propositions très directes, très concrètes, mais aussi à participer d'un choc culturel. Voilà les héroïnes de la transition. Et donc les héroïnes de la transition, on en reparlera tout à l'heure, ou plutôt on les entendra dans Debout les femmes. D'abord, on va donner le son à Bourvil avec La tendresse.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
Sans passer le phare.